À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le mercredi 27 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Nous poursuivons notre analyse prospective de l'actu cette semaine. Question de voir de quoi sera fait 2024. Chaque jour, deux invités pour m'accompagner et commenter les différents sujets. La Belgique sera à l'honneur aujourd'hui avec deux experts qui m'accompagnent ce matin. À la veille de cette année électorale importante, je reçois Caroline Sagesser, politologue et chercheuse au CRISP, et Quentin Joris, responsable du service économie à l'Écho. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Demain, nous passerons au chapitre international et nous terminerons vendredi avec les perspectives pour le monde des entreprises. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans ce brief spécial sur la politique belge en 2024. L'an dernier, à la même époque exactement, Jean Fagnel prédisait une année 2023 relativement compliquée. Il craignait que cette année ne soit une année perdue, paralysée par la perspective électorale de juin 2024. Alors, il n'a pas eu complètement tort, mais enfin, il n'a pas eu totalement raison non plus. Quentin, un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer.
Alors, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On va essayer de voir un peu les deux aujourd'hui. Quels sont les points positifs pour la Vivaldi cette année? Je vais en épingler deux. Donc, premièrement, on est parvenu à avoir une réforme des pensions, mais c'est une réforme des pensions à minima. Elle a quand même permis d'assurer le déblocage des fonds de la relance. Donc, un bon point. L'autre bon point, c'est qu'on a une incertitude qui est levée, même s'il y a encore des questions qui vont se poser, c'est qu'on est parvenu à avoir un accord avec Engie, un accord qui est finalisé sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Donc ça, c'était vraiment deux points plutôt à mettre au crédit de la Vivaldi. Côté négatif, il y en a quelques autres. Je pense notamment à la réforme fiscale. La réforme fiscale très attendue et sur laquelle les partis ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Alors, il n'était pas convenu de finaliser une réforme sous cette législature, mais au moins de la préparer. Mais même ça, on n'est pas vraiment parvenu à grand-chose. Il y a eu un blocage assez important. Pourtant, c'était un des objectifs principaux de la Vivaldi. L'autre chose, et ça c'est un dossier plus récent, on a eu une impression d'improvisation, un peu de cafouillage en cette fin d'année avec le dossier de la concession presse. On a l'impression que le gouvernement s'est retrouvé un petit peu empêtré dans ce marché public, qu'il était très embêté avec la situation de Bpost et qu'il a finalement improvisé pour trouver une solution. Donc, un bilan assez mitigé pour cette année 2023, je dirais.
Et Caroline, quel est le bilan que vous dressez pour la Vivaldi?
Oui, même diagnostic. Je crois que la Vivaldi, c'est un bateau qui n'a pas sombré, mais qui n'a pas avancé non plus. Donc, au dossier que Quentin vient d'épingler, je rajouterais les difficultés en matière de gestion des finances publiques, dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent, où des critères budgétaires vont être réimposés par l'Europe. J'ajoute l'absence de préparation de cette fameuse réforme de l'État, alors qu'on avait annoncé que ce gouvernement allait un peu réfléchir à une Belgique 2.0. Il se projetait d'emblée vers l'horizon 2030. Et là, vraiment, on a l'impression qu'on a fait de la gestion à la petite semaine, de la gestion de crise, ce qu'on a plutôt bien fait, mais aucune perspective à long terme pour la Belgique et quand même une grosse hypothèque qui pèse sur le scrutin de 2024.
Et finalement, quelle note donnez-vous au bulletin de la Vivaldi?
Je lui donnerai la cote de 5 parce que quand même, comme je le disais, ce gouvernement n'a pas sombré, donc il a la moyenne. Par contre, si on tient compte du contexte extrêmement compliqué, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, si on tient compte de la difficulté de gouverner à 7, donc là je crois qu'on peut monter la cote du gouvernement à 7 voire à 7,5 parce que les circonstances étaient vraiment difficiles.
Alors, rentrons dans le vif du sujet de cette édition prospective. 2024 est une année électorale à tous les niveaux de pouvoir, européenne, fédérale et régionale en juin, provinciale et communale en octobre. Caroline, quelles seront les grandes thématiques qui s'imposeront dans la campagne?
Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal et on doit rappeler que parfois un événement survient qui s'impose dans la campagne. On peut penser au cas d'école qu'a constitué le scrutin de 1999 avec l'irruption de la crise de la dioxine. Donc on n'est pas à l'abri d'un incident de ce type. Mais sinon, je crois que les thématiques, eh bien, il n'y a pas beaucoup de surprises. Elles seront portées par les différentes formations politiques. Donc on aura tout ce qui concerne les questions du pouvoir d'achat parce qu'on sait aussi que c'est ce qui préoccupe le plus la majorité des électeurs. Ce sont toujours les questions économiques. économique. Et puis on aura aussi inévitablement les questions liées à la sécurité et à l'immigration, parce que ce sont des thématiques importantes que des événements récents tels que l'attentat du début du mois d'octobre les ont remises sur la table, parce que l'extrême droite pousse dans cette direction-là aussi. Et puis enfin, on aura les questions liées au climat, à l'énergie. Donc quand on a fait ce tour-là, bien évidemment, on a aussi fait un peu le tour des différentes formations politiques, la droite, la gauche, les écologistes, qui vont porter ces débats sur la scène publique.
Vous avez justement évoqué la question de la migration qui pourrait être assez importante durant la campagne. Est-ce que justement ça, c'est pas un avantage pour les partis d'extrême droite, en l'occurrence pour le Vlaams Belang, qui risque de surfer sur cette vague, qui pourrait être très avantagée? Les sondages prédisent des très bons résultats pour le Belang, aussi des bons résultats pour l'extrême gauche. Est-ce que ce succès des extrêmes, il est inéluctable, il paraît irréversible déjà?
Alors oui, je crois qu'à ce stade, la progression des extrêmes est inéluctable. Par contre, l'amplitude de ce progrès est encore à déterminer. Bien des choses peuvent se passer, en particulier cette espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur nous, particulièrement en Flandre, celle de voir le Vlaams Belang être le premier parti de la communauté flamande et donc, au moins dans un premier temps, je dirais, un peu diriger les opérations au lendemain du scrutin. Celle-là, ce n'est pas encore inéluctable, donc je crois qu'il y a encore moyen de mobiliser des énergies pour éviter ce résultat-là. Alors il y a effectivement la thématique de l'immigration. Je crois que le fonds de commerce de l'extrême droite du Vlaams Belang en Flandre, c'est ça, la xénophobie. C'est aussi le déclassement socio-économique. Et là, on a un gouvernement qui a plutôt quand même bien réagi pour éviter cela. La Flandre reste grosso modo une région prospère. Mais alors, il y a la troisième thématique, c'est la question du nationalisme flamand. C'est une des choses qui fait la force de l'extrême droite. C'est ce double pilier, ce fonds de commerce, je dirais, raciste, xénophobe, anti-immigration. Et puis cet appui dans un mouvement flamand qui n'a jamais, pour une partie du moins complètement obtenu la satisfaction de ses revendications. Et donc là, effectivement, le fait que nous n'ayons que peu d'indications sur la Belgique de demain, le fait qu'on puisse agiter le spectre d'une nouvelle Vivaldi qui sera encore plus minoritaire du côté flamand, ça c'est peut-être encore une thématique sur laquelle on peut travailler pour essayer d'un peu couper l'herbe sous le pied du Vlaams Belang.
Est-ce qu'il peut y avoir des interactions entre les deux scrutins, le fédéral et le régional en juin, et puis provincial et communal en octobre?
Oh, non seulement il peut, mais je suis convaincu que ça va se produire. Donc le scénario que je redoute en fait, c'est celui-ci. C'est un Vlaams Belang qui arrive en tête. D'autres formations politiques, en particulier la NVA, qui sont un peu tétanisées dans cette circonstance, qui refusent de fâcher les électeurs du Belang. Donc je redoute un blocage peut-être un peu long également du côté flamand. Et n'oublions pas que la Flandre a changé les règles du jeu. Le vote n'est plus obligatoire au communal, au provincial en Flandre. Donc il va falloir non seulement ne pas mécontenter l'électeur cet été, mais il va falloir le motiver pour qu'il aille voter. Donc je crois qu'effectivement, je crains bien que nous ayons un blocage politique entre les deux scrutins. Et de mon point de vue, cette proximité des scrutins est un élément assez défavorable.
Alors les élections, c'est donc le 9 juin, mais c'est après que les joyeusetés devraient commencer. Alors je pense, Caroline, qu'il ne faut pas être devin ou Madame Irma pour prédire que les négociations seront longues et sans doute compliquées. La question est d'ailleurs un peu sur toutes les lèvres. Battra-t-on le record de 541 jours pour former un gouvernement fédéral?
Alors on me l'a déjà posé cette question, c'est dire si cette incertitude est dans l'esprit de beaucoup de monde. Est-ce que nous irons jusqu'au 1er décembre 2025, parce que ça c'est la date où on battra ce record? Alors ça n'est pas exclu du tout, même si on peut aussi imaginer que la complication de l'échiquier au lendemain des élections fermera peut-être certaines portes aussi, dans la mesure où la montée des extrêmes que nous évoquions pourrait rendre vraiment compliquée la perspective d'obtenir une majorité des deux tiers pour faire une réforme de l'État. Donc en dépit des positionnements des uns et des autres, et en particulier de la NVA, peut-être qu'on devra renoncer dans l'immédiat à cette perspective-là, et donc on ne sera plus dans la configuration 2010-2011, où on négocie une réforme de l'État avant de former un gouvernement. Peut-être qu'on devra former le gouvernement avant et repousser la réforme de l'État à des perspectives plus lointaines.
Paul Magnette et Alexander De Croo, quand ils avaient conçu la Vivaldi, ils ont dit qu'elle est faite pour durer 10 ans. Ici, donc, on a eu une législature. La Vivaldi 2, ça paraît relativement compliqué si on en croit les sondages, mais ce n'est pas nécessairement impossible. Est-ce que quelqu'un en voudrait encore de cette Vivaldi 2? Est-ce qu'elle est encore vendable, notamment pour les partis flamands?
Je crois que personne n'était très enthousiaste lorsque la Vivaldi 1 s'est constituée, même si pendant un bref moment, autour de la prestation de serment, de la déclaration d'Alexander De Croo à la Chambre, on a un peu fait illusion. Donc c'était déjà une coalition du pis-aller, et je crois que personne ne veut d'une Vivaldi 2, sauf peut-être Alexander De Croo, qui continue à dire qu'il se verrait bien rempiler malgré des perspectives qui rendent cela de plus en plus improbable. Mais il est possible que finalement cette configuration s'impose. Si la NVA refuse obstinément de monter dans un gouvernement qui ne prévoirait pas une réforme de l'État extrêmement poussée pour aller dans le sens du modèle confédéral qu'elle souhaite, eh bien, on n'aura peut-être pas tellement le choix et on devra avoir un gouvernement de type Vivaldi II, peut-être à 8 plutôt qu'à 7, avec les engagés en prime.
Dans les régions, la formation pourrait par contre être un peu plus rapide qu'au fédéral, quoique la montée attendue du PTB en Wallonie pourrait corser un peu la donne et pousser finalement les autres partis à s'entendre ou bien à reconduire une majorité actuelle un peu par défaut. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Mais je crois que les choses sont encore relativement ouvertes également. La résurrection des engagés, si on peut la qualifier de telle, pourrait ouvrir la voie à un Olivier, donc une majorité PS écolo engagée, qui a sans doute les faveurs du PS et d'écolo. Par contre, il n'est pas clair que les engagés s'engageraient avec le même enthousiasme dans cette voie. Eux pourraient préférer une coalition dont ils formeraient le centre, avec l'EMR d'un côté, le PS de l'autre et sans les écologistes. Donc je crois que beaucoup de possibilités sont envisageables. Tout dépendra évidemment du résultat, du scrutin, de la première formation politique. Là, je crois que les choses sont encore relativement ouvertes. Et puis on verra aussi combien de temps on négociera avec le PTP avant de conclure, selon toute vraisemblance, qu'avec cette formation politique, un accord n'est pas possible.
Vous pensez que le PTB n'a toujours aucune volonté de monter dans un exécutif ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un changement cette fois-ci ?
Je ne crois pas. Je crois que c'est trop tôt. Et ce, d'autant plus qu'on vient de l'évoquer, il y a les communales, les provinciales au mois d'octobre. Alors je pense que c'est plutôt parmi les objectifs prioritaires du PTB de monter en majorité dans certaines villes de Flandre comme de Wallonie, dans certaines communes, et former une coalition régionale avec tout ce que ça impliquerait de renoncement par rapport au programme du parti avant ce scrutin, à mon avis, ça ne figure pas dans leur stratégie politique.
Côté wallon, il y a une figure qui va probablement tirer sa référence, Élodie Rupo est tête de liste aux européennes. Est-ce que vous pensez que l'heure de Thomas Dermine, qui se présente un peu parfois comme il a écrit un livre sur les relations entre la Flandre et la Wallonie, c'est presque un programme pour une vice-présidence, est-ce qu'il pourrait obtenir ce poste ou est-ce que c'est peut-être trop tôt pour lui ?
Je crois que tout dépendra du résultat du scrutin, puisqu'il faut rappeler que Thomas Dermine n'a jamais été élu, donc on verra bien quel sera son score personnel, sa popularité, avant de voir s'il peut ou non prétendre à ce poste.
Alors à Bruxelles, on prévoit aussi des changements. Le plan Good Move, ça a été l'un des gros dossiers de la majorité sortante. Est-ce que ça ne risque pas d'être un peu fatal finalement à Ecolo, par exemple, dans la capitale ?
Eh bien, les derniers sondages ne nous montrent pas cet effondrement d'écolo. Donc on peut peut-être d'ailleurs se demander, est-ce que les écologistes ne sont pas en train de rompre cette malédiction qui les voyait subir vraiment une défaite nette après une participation au pouvoir ? Et ce d'autant plus qu'on est dans un contexte où le PTB monte énormément, donc je dirais quasi arithmétiquement, les autres formations politiques doivent perdre des plumes. J'observe que par exemple son partenaire de majorité Défi, dans les derniers sondages, perd plus de points de pourcentage qu'écolo.
Historiquement, le PS a toujours été assez fort dans certains quartiers, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas trop misé cette fois-ci sur une approche peut-être un peu plus communautaire ?
Mais disons que c'est évident que pour le PS à Bruxelles, ça devient difficile de réaliser de bons scores dans certains quartiers du sud ou de l'est de Bruxelles. Alors ça peut être compensé effectivement par un meilleur résultat dans d'autres communes. Maintenant, il y a effectivement la concurrence du PTB. Et là, on revient à cet élément, je dirais, géopolitique que nous évoquions tout à l'heure, la guerre en Palestine-Israël, qui semble vraiment avoir donné un vrai boost au PTB parce que c'est un thème extrêmement mobilisateur dans les quartiers.
Alors pour terminer cette conversation, peut-être Caroline et Quentin, quelle serait votre personnalité belge en 2024 ?
On attend beaucoup du retour au premier plan de Sophie Wilmès, mais bon, je ne suis pas sûr que ce retour va s'effectuer, parce que Sophie Wilmès est tout de même confrontée à une situation personnelle difficile. Donc j'ai envie d'épingler deux personnalités pour les deux moitiés de l'année. Pour le premier semestre 2024, je pense à Adja Labib, notre ministre des Affaires étrangères, qui sera davantage exposée dans le cadre de la présidence européenne. Alors, elle a eu pour le moment un mandat un peu compliqué et depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'elle est davantage en retrait. Alors, je pense que ce serait intéressant de voir dans ces six premiers mois de l'année dans quelle mesure vraiment elle réussit à occuper la fonction. Alors, pour la seconde moitié de l'année, après le scrutin, moi, il y a une personnalité qui m'impressionne et dont je crois qu'elle pourrait jouer un rôle important au premier plan. président, c'est le président du CDNV, Sami Mehdi. Alors je ne sais pas si ce sera déjà en 2024 ou plutôt en 2025, mais je crois que dans un paysage politique où, côté flamand, mais les présidences de partis se sont heurtées quand même à de sérieux problèmes de casting, eh bien lui, c'est une personnalité qui émerge comme ayant été un choix positif pour son parti. Et donc je vois bien Sami Mehdi jouer un rôle important dans ce cadre-là.
Quentin ?
Je ne vais pas être très original, mais moi je vais citer Bardo Weaver parce que je pense qu'il aura beaucoup de clés en main après les scrutins et donc il faudra voir un petit peu ce qu'il accepte de faire ou ne pas faire. Alors bien sûr, c'est peut-être le meilleur rempart contre Vlaams Belang en Flandre, mais il faudra voir ce qui est possible, les pressions qu'il vivra au sein de son parti et dont on a déjà parlé. Au niveau fédéral, il faut voir ses exigences institutionnelles, quelles seront-elles, quelles concessions sera-t-il prêt à faire d'un point de vue socio-économique s'il négocie avec le PS. Je pense que ça va vraiment être un enjeu clé post-scrutin.
Un très grand merci Caroline Sagesser et Quentin Joris d'avoir participé à ce brief. Guillaume Cordeau a assuré la production de cet épisode. Demain, je recevrai Tanguy Streuil, professeur de relations internationales à l'UC Louvain, et Jean-Paul Bombartz de l'Écho pour parler de la situation géopolitique. Vous pouvez retrouver déjà aussi le brief marché avec Christopher Dembick sur vos plateformes préférées. À demain.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.